Dorothée Le Tessier, et j'ai vraiment adoré ce roman. Je me suis échappée avec Marie-Yvonne, j'ai partagé sa colère, ses doutes, son envie de partir, mais aussi ses rêves, et c'est comme une grande respiration.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une femme s'en va, une femme s'absente, une femme se dérobe, une femme s'arrache, une femme déserte, une femme rentre chez elle. C'est ce genre de voyage aujourd'hui dans votre book club. Ce sont des mots choisis dans la préface que Maëlys de Kerangal signe au très beau roman de Dorothée Le Tessier, paru en 1980 et titré « Voyage à Paimpol ». Il reparaît ces jours-ci aux éditions Gallimard, et quelle émotion de découvrir ou redécouvrir l'histoire de cette femme ouvrière, mère et mariée, qui pour un peu d'air enfin, a le courage un matin de monter dans un autocar pour changer de ville. Maëlys de Kerangal et Eliane Leport sont nos invités pour en parler. Ensuite, on retrouve Mohamed Bougarsar pour la dernière chronique de sa résidence au Book Club. Il nous parle logique, responsabilité et guerre avec Aimé Césaire, Anna Arendt et surtout Herman Bohr à la rescousse des grandes questions. Et enfin, nous jouons avec vous au grand jeu des pages musicales à chercher et trouver de la musique dans les livres. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Quand je lève la tête, je vais lever la tête toute la semaine, il va y avoir plein de petites têtes de troisième ou de seconde parce qu'il y a des stagiaires aujourd'hui et toute la semaine à Radio France. Bienvenue à elles, bienvenue à eux. Bonjour Eliane Leport.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous êtes chercheuse rattachée à l'IDHES Ivry. Vos travaux sur les écrits ouvriers articulent l'histoire culturelle, l'histoire sociale et politique de l'écriture et l'histoire des représentations des mondes ouvriers. Bienvenue à vous dans le Book Club. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce texte Voyage à Paimpol de Dorothée Le Tessier. Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour.
Vous êtes romancière, vous étiez venue nous parler en tout début de saison de votre si beau roman Jour de Ressac, qui n'est pas tout à fait sans écho. Moi j'y ai pensé beaucoup en lisant Le Tessier. Et vous signez une très belle préface à ce texte, Voyage à Paimpol. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être ici. Je l'ai dit, Dorothée Le Tessier publie ce roman en 1980. Elle avait à peine 30 ans parce qu'elle est née au tout début des années 50. Le roman connaît un succès important, voire très important. Il va être traduit dans de nombreuses langues. Il y a une sorte de confusion que l'on fait rapidement aussi dans sa réception autour d'un contenu qui ne serait qu'autobiographique. Or, c'est un peu plus compliqué que ça, comme souvent. Est-ce qu'on peut dire un mot de 1980, la date à laquelle paraît ce roman, et pourquoi c'est intéressant de parler de ces plus de 10 ans après mai 1968 pour saisir à la fois l'écriture et puis la réception, il y en a pas.
Alors 1980, effectivement, c'est une date forte et symbolique, puisque c'est vraiment la fin des années 68, ou de ce qu'on a appelé la période post-68. Ça a été une période d'intense contestation, d'intense réflexion aussi, et en particulier sur le monde ouvrier, sur les ouvriers et les ouvrières. L'usine était une sorte de lieu politique, en fait, où ça débattait énormément. Et c'est vrai que ce livre paraît à un moment où on va rentrer en fait dans une autre période qui est presque à l'inverse de celle-là, puisque c'est la crise économique qui va aussi engendrer une crise qui va très fortement impacter les mondes populaires en général, le monde ouvrier et en particulier les ouvrières qui vont être les premières touchées par le chômage. Donc du coup, c'est vrai que c'est un ouvrage qui est très intéressant à relire aujourd'hui par rapport à cette période. Parce qu'il est à la charnière entre un moment qu'on a espéré et qu'elle a espéré aussi révolutionnaire, et puis un moment finalement où le monde ouvrier ne va pas s'effacer puisqu'il reste important numériquement, mais en tout cas, enfin, il va plus du tout être l'objet de la réflexion politique comme ça avait été le cas donc dans les années précédentes.
C'est aussi un temps où ce monde ouvrier et les corps et les paroles des ouvriers et ouvrières apparaissent dans certains textes. Est-ce qu'on peut dire que ce texte de Dorothée Le Tessier s'inscrit dans une histoire littéraire? Parce que là, vous avez replacé un contexte économique, politique et social, Eliane Leport. Qu'en est-il des productions en littérature et peut-être de la manière dont le texte de Le Tessier s'y glisse? Ou pas d'ailleurs.
Alors c'est si il s'y glisse complètement. En fait, c'est le moment, la décennie 70-80. C'est le moment où les ouvriers et les ouvrières ont le plus écrit en fait sur le travail en particulier, et pour les ouvrières sur autre chose que le travail, comme on le voit dans le texte de Dorothée Letessier. Ce sont des textes qui sont attendus, en fait, par les éditeurs. Beaucoup de maisons d'édition très en vue, en fait, qui vont disparaître, enfin, non pas en tant que maisons d'édition, mais qui ne vont plus s'intéresser aux textes ouvriers à partir des années 80, ont des collections qui accueillent, en fait, les textes ouvriers.
Mais c'est attendu parce que les voix étaient trop rares et donc on est très heureux et heureuse de les lire, ou c'est attendu parce que ça marche? Est-ce qu'il y a une attente populaire de lecture de ces textes-là, Eliane Leport? Pourquoi est-ce que les éditeurs veulent publier ces voix-là?
Parce que parmi les éditeurs, en fait, il y a des intellectuels, des militants qui, eux, sont très intéressés par ces questions-là. Par exemple, celui qui va éditer Dorothée Letessier, Jean-Pierre Barou, en fait, c'est un éditeur qui travaille au Seuil. Elle est intéressante, l'histoire de ce texte, parce que le premier texte qu'envoie Dorothée Letessier, c'est pas du tout le voyage à Paimpol, c'est une chronique de grève qui a eu lieu à Chafoteau et Maury, là où elle travaille. Il y a une grève qui a duré 2 mois et elle écrit sur cette grève. Et c'est ce texte-là qu'elle envoie. Mais il est refusé précisément parce qu'il n'y a pas de collection en mesure de l'accueillir, selon Barou. En revanche, il lui écrit une lettre pour dire « mais vous pouvez écrire ». Ils se rencontrent et il lui demande non pas un texte de lutte, mais un texte en fait où l'usine pourrait être saisie de l'intérieur. Racontez-nous, en gros, il lui dit « racontez-nous les vies ouvrières ».
Mais il lui passe commande d'une certaine manière.
C'est un peu une... en tout cas, ça transforme complètement son projet d'écriture. J'appelle ça une commande entre guillemets.
Oui, mais tout de même, en tout cas, elle rencontre quelqu'un qui lui dit « écrivez autre
alors,
chose ».
Alors, elle écrit de toute façon. Ça, c'est une particularité de l'écriture ouvrière, c'est-à-dire que il peut y avoir une sorte de déviation un peu du projet d'écriture. Là, il dit en fait, des récits de lutte, on en a eu beaucoup. Et donc, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Et Barou était très intéressé de toute façon par le fait, il avait fait la même commande à un ouvrier 2 ans plus tôt, Charlie Boyadian, qui était dans la Drôme, dans une usine textile. Et là, en gros, il dit à Dorothée Letessier, voilà, parlez-nous de l'usine, des gens qui y travaillent, de comment ça travaille, des ambiances, etc. Et elle se met à écrire, elle écrit pendant 1 an, et ça change sa manière de travailler, en fait. Elle le dit elle-même, d'abord, l'écriture devient un travail, et puis par ailleurs, elle se met, en fait, à observer les situations d'usine, ce qu'elle n'avait pas particulièrement fait jusque-là. Elle prend des notes, elle est beaucoup plus attentive en fait au travail et à l'environnement du travail.
Et alors est-ce que ça change son écriture aussi? Parce que vous parlez de ce premier texte qu'elle envoie à cette chronique de grève et ce deuxième texte, Le voyage à Paimpol, qui est un texte différent où on peut dire qu'entre autres choses elle répond à la commande de Barou. Est-ce que ce sont deux textes littéraires différents du point de vue de la langue?
Alors moi, j'ai pas lu le récit de lutte. Je ne sais pas où sont les archives de Dorothée Letessier. S'il y en a, j'adorerais bien sûr les consulter.
On passe bien.
Mais oui, vraiment. Aussi parce qu'elle a reçu beaucoup elle a eu beaucoup de courriers en fait,
suite
de lecteurs électriques
suite
à la parution. Mais j'imagine voilà que ça pouvait être un récit de grève. Et là, ce qui est très intéressant, parce que Barou, en gros, lui dit quand même, faites un récit d'usine, quoi. Enfin, depuis l'intérieur de l'usine. Et son premier geste, c'est quand même de sortir. c'est d'une radicalité dingue. Et c'est aussi ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que pour parler de l'usine, et c'est une particularité aussi de l'écriture féminine.
Elle s'en échappe.
En fait, elle s'en échappe.
On va évidemment parler de la spécificité de ce geste et de la fuite et du vagabondage qui est pris dans ce voyage à Paimpol. Mais vous avez dit, Eliane Leport, c'est intéressant de le lire aujourd'hui. Et après qu'on a parlé de 1980, spécificité de ce temps de publication pour Le voyage à Paimpol, pourquoi est-ce que, donc, plus de 45 ans plus tard, qu'est-ce qui est intéressant, peut-être avant qu'on parle de la pure littérature, de la voix, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant que Gallimard fasse ce geste de republication aujourd'hui?
Alors moi, je trouve ça très intéressant, enfin, pour plusieurs raisons. Enfin, d'abord parce qu'on est quand même dans un moment, enfin, de réactualisation des questions d'émancipation féminine. Et donc, je trouve que c'est un texte qui a encore beaucoup de choses à dire, en particulier sur la jeunesse. Il y a des études qui montrent, en fait, une augmentation du sexisme parmi les jeunes. Et donc, elle écrit beaucoup sur ça. Donc, je trouve que c'est intéressant que ce texte soit... Je trouve qu'il est encore beaucoup d'actualité. Alors, pas forcément sur ce qu'elle dit sur l'usine dans les années 80, mais parmi la jeunesse aussi. Moi, je suis professeure, donc je parfois, quand je dis à mes élèves, il y a encore des usines, ils sont étonnés. Donc, on regarde des images d'usines, etc. Bon, c'est plus forcément les usines dans l'électronique et dans la métallurgie, mais il y en a beaucoup dans l'agroalimentaire, par exemple. Et donc, je trouve qu'il y a,
en
il y a aussi...
En qualité de témoignage de ce travail-là.
Voilà, il a aussi cette actualité-là. Et puis après, moi, je trouve que, outre le geste radical de Dorothée Letessier, dont je parlais à l'instant, c'est vraiment une rencontre. Elle parle d'une rencontre avec les ouvriers et les ouvrières au bon sens du terme, c'est-à-dire que elle rencontre un groupe sur lequel elle a un regard qui n'est pas du tout misérabiliste, qui n'est pas doloriste en fait, comme aujourd'hui on continue à écrire sur les mondes populaires, mais je trouve avec un regard beaucoup plus misérabiliste. Et elle, il y a quelque chose, elle parle aussi de ce groupe d'hommes, de femmes qu'elle rencontre, et c'est intéressant.
Parce que quand vous dites qu'elle les rencontre, vous faites pourtant la distinction. Dorothée Letessier n'est pas une établie, au sens où on a pu le dire à propos de Linhart, qui signe un texte de ce même titre. Elle dédicace ce texte aux ouvriers et ouvrières de Chafoto. Quelle est sa trajectoire par rapport au monde ouvrier à Dorothée Letessier ?
Alors, elle le dédicace
aux ouvrières. Ah oui, pardon, c'est que aux féminins. Voilà.
Ben oui, puisque c'est ça qu'elle amène dans son livre, en fait. Ouais. Quelque chose qu'on trouve pas du tout, par exemple, dans les textes des hommes. Alors, elle vient d'un milieu, elle le dit, moi j'ai trouvé deux interviews qu'elle donne après la parution de son livre. Elle vient d'un milieu petit bourgeois, son père était professeur d'EPS, je crois, sa mère était femme au foyer, enfin elle ne travaillait pas. Et elle travaillait chez elle, puisqu'il y avait quatre enfants, il me semble.
Donc elle travaillait vraiment beaucoup.
Voilà, donc elle travaillait beaucoup en réalité. Après, elle a un parcours assez singulier, puisque à 15 ans, en fait, elle se retrouve lycéenne à Paris, seule. Et donc, elle va rencontrer, en fait, elle s'initie à la politique, en tout cas, à ce moment-là. Et elle rencontre des mouvements situés à l'extrême gauche. Elle intègre notamment l'OCT, qui est l'Organisation communiste des travailleurs. Et ça, et je crois que c'est ça aussi qui installe le travail dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle vit une rupture familiale par rapport à son engagement politique qui n'est pas du tout reconnu par son père. Et donc, il lui coupe les vivres pendant 4 ans, entre l'âge de 18 ans et l'âge de 22 ans. Et c'est là qu'elle se met à faire des petits boulots, en particulier dans la bureautique, dans les magasins, etc.
Vendeuse,
elle abandonne.
Caissière.
Voilà, exactement, dont elle parle aussi dans ce livre. Et elle abandonne ses études. Et donc, elle milite beaucoup à l'époque. Elle est à la CFDT, elle est à la commission femmes. Donc, elle est très sensible, en fait, à la question féministe. Et elle rencontre un homme, Ariel Nathan, qui, lui, a couvert, en fait, une grève en 1972 à Saint-Brieuc, le Juin français. Et il me semble, même si ça, elle ne le dit pas, mais je me dis que peut-être qu'il y a un lien entre la passion pour les grèves à ce moment-là, le fait de les suivre, ce qui était le cas de son compagnon, et puis le fait de partir 2 ou 3 ans plus tard à Saint-Brieuc et de travailler à Chafoto et Maury. En tout cas, juste, excusez-moi, je prolonge pour dire que c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté par rapport sur Dorothée Letessier, est-elle établie ou pas?
Oui.
Elle ne s'est jamais présentée en tant qu'établie, c'est pas quelque chose qu'elle revendique dans son écriture.
Donc on rappelle que c'était le fait volontaire, motivé politiquement et intellectuellement, de travailler en usine de la part de personnes intellectuelles, pour accompagner un projet politique global.
Oui.
C'est juste dire
et
des comme ça.
Et susciter des mouvements.
Et politiser, voilà le travail. Ouvrier, de sorte que la révolution par le peuple et par la classe ouvrière puisse advenir.
C'est
à peu près bien dit. On va parler de ce roman Le Voyage à Paimpol juste après cette reprise de Partir un jour. C'est un tube des années 1990, ici réinterprété par Juliette Armanet. C'est la bande originale du film qui ouvrait cette année le Festival de Cannes, réalisé par Amélie Bonin et qui porte aussi ce titre Partir un jour. Et c'est, comme dans le roman, conditions sociales, époque et décor tout à fait différents, l'histoire d'une femme qui se donne quelques heures, quelques jours pour envisager sa vie sous un autre angle.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder
pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer pour l'amour que l'on donne mais qui s'abandonne.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il a tellement entendu dire et dit lui-même que la condition ouvrière était pénible et combien les prolétaires étaient aliénés et abêtis par le mode de production capitaliste qu'il me prend pour une abrutie. Voilà ce que pense Marie Vonne, jeune femme, mère et mariée, ouvrière dans les Côtes d'Armor, qui est montée dans un bus pour Paimpol un matin qu'elle avait vraiment besoin d'air. Elle a dormi dans un hôtel et vient remercier au petit-déj un couple qui, de son action involontaire, l'a sauvée d'un viol la veille au soir. On est à la toute fin des années 70, le roman qui nous occupe aujourd'hui paraît en 1980, et embarquer avec cette femme dans l'autocar comme dans ses pensées est un cadeau littéraire précieux, intact, plus de 40 ans après. En effet, la collection L'Imaginaire de Gallimard fait reparaître le texte, augmenté de deux préfaces, la vôtre, Maëlys de Kerangal, et celle de la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Ilyen Leport en a précisé la temporalité de cette parution, l'importance de mai 1968, la tradition d'une écriture ouvrière et plus spécifiquement d'une écriture féminine ouvrière. On va entrer maintenant dans le corps du texte avec Linky Pitt.
Je me demande si j'ai bien fait de laisser ce mot sur la table. Dans le fond, je n'ai pas de compte à rendre. Si, pourtant. On vit ensemble, même maison, même boulot, même lit, même enfant. On se doit certaines informations. Je n'aimerais pas qu'il parte sans m'avertir. J'aurais peut-être dû expliquer mieux ce que je ressentais. L'ennui, c'est que je ne le sais pas trop moi-même. J'ai besoin de respirer, seule. Il me prend mon air. Je n'ai plus d'air à moi, je n'ai que l'air qu'on me donne, l'air maussade. J'ai l'air de rien. Même mes colères doivent se fondre dans les convenances. À l'usine, je dis vivement 5 heures, mais je reste polie, raisonnable, disciplinée. En silence, je déteste ces appareils qui n'arrêtent pas de me passer dans les mains, jour après jour. Cela n'en finit pas, on dirait que c'est chaque fois le même. Je pose ma pièce, 4 vis, je serre un boulon, jamais le dernier. Ces pièces qui vont je ne sais où, qui ne me sont rien que des blessures aux doigts, je les hais. Mais je contiens ma colère. Elle vit pourtant, magnifique, en moi. Je l'emprisonne, je me dompte. Je n'ai que des mouvements d'humeur et des agacements misérables, alors que je voudrais hurler. J'aimerais laisser fleurir, libre, ma belle colère. Je la sens s'épanouir, rouge et chaude. Je me gave de fureur. Je leur en veux tellement à tous ceux qui m'enchaînent. Ma haine est énorme, démesurée. Elle me dépasse, me prend dans ses bras, me berce de paroles mauvaises. j'ose enfin être méchante et ma colère est volupté.
C'est pas rien ce début quand même, le voyage à Paimpol. Qu'est-ce que ça fait, Maëlys de Kerangal, de découvrir cette voix de la narratrice, de cette femme qui nous parle d'emblée ?
D'emblée, c'est une espèce de grande secousse et aussi un espèce d'appel d'air face à cette femme qui a cette voix qui semble étouffée. Hein. J'aime beaucoup quand elle dit « je veux laisser fleurir libre ma colère » parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, c'est comme si elle définissait le livre qu'elle va écrire. Hein. Donc ce livre, il se tisse dans cette colère. Moi, je ne connaissais pas du tout Dorothée Le Tessier quand j'ai été sollicitée pour écrire cette préface. Et j'ai été extrêmement séduite, emportée et assez bouleversée par ce texte. Je crois d'ailleurs que c'est un texte qu'Annie Ernaux avait suggéré à Margot Gallimard, qui dirige la collection L'Imaginaire. Et il y a dans cette, il y a une espèce de continuité comme ça de voix de femmes. Et je trouve que la voix de Dorothée Le Tessier, en tout cas la voix de Marie-Yvonne, c'est une voix tout simplement, je dirais presque révolutionnaire, avec N'AIR à la fin, voilà, avec cette idée quand même de la respiration qui s'active et qui va ébranler évidemment immédiatement le corps qui va grimper dans cet autocar, ce corps qui va dépasser un peu toutes ces espèces de remettre en cause tous ces contrats, suspendre toutes ces relations et puis partir. Voilà, on est immédiatement dans un mouvement vital. Et c'est vraiment l'effet que ça fait, c'est-à-dire cette espèce de bol d'air dont elle parle, c'est finalement celui que le lecteur reçoit dès les premières lignes du texte.
Vous parlez d'un écrit révolutionnaire avec un jeu de mots de N'AIR, parce qu'en effet, il y a cette idée qu'elle n'a que l'air qu'on lui donne et c'est un air vicié qui ne lui suffit plus. Mais vous commencez votre préface en disant une femme s'absente et on a presque l'impression que cette seule phrase est révolutionnaire, Maëlys de Kerangal, que s'absenter de la maison familiale, son travail, de son couple, même tout simplement d'un espace qui nous serait imposé, c'est déjà quelque chose d'extraordinairement subversif.
Oui, il ne faut pas penser que ce voyage à Paimpol qui dure 2 heures et qui la porte à 45 kilomètres n'est pas autre chose qu'une forme de révolution en soi, portée par un féminisme alors très viscéral. Hein, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait cette espèce de réactualisation justement de réintensification de la pensée féministe depuis plusieurs années. Et là, on est face à un féminisme qui est complètement viscéral et qui d'ailleurs qui est ancré dans quelque chose qui me touche beaucoup, qui est le quotidien, la vie domestique, la vie ouvrière. Ça je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement étonnant et qu'on a besoin de réentendre, parce qu'en fait ça part de la condition de vie vraiment de cette femme. Et moi, j'ai pas mal réfléchi à cette histoire de s'absenter, parce qu'en fait je me dis, bon, c'est quoi que ça veut dire vraiment s'absenter? Donc j'ai vraiment été voir la signification de ce mot, et s'absenter, ça veut vraiment plutôt dire de ne pas être là où l'on doit être. Hein, donc où est-ce qu'elle doit être? Elle doit être donc chez elle, donc entre l'évier et la cuisine, là où mon mari m'a laissé, hein, c'est ce qu'elle dit, peut-être auprès de son petit garçon dont elle fait peu de dont elle parle peu dans le livre. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la chose la plus peut-être radicale de ce texte, hein, c'est que là où il y a la transgression la plus vive,
même de cela elle s'absente.
Même de cela elle s'absente et elle suspend ce rôle de mère. Elle n'en suspend pas le sentiment, mais elle en suspend le soin,
la charge.
Et ça, je trouve que c'est peut-être c'est la chose qu'on pardonne le moins, en fait, aux femmes. Hein, elle suspend son couple, et évidemment, elle suspend son activité à l'usine, face à sa condition de salarié, qui est extrêmement aliénante. Donc, pour tout ça, elle ne se trouve plus là où elle doit être. Donc, en ce sens-là, c'est le pur absentéisme de Marie-Yvonne. C'est-à-dire elle s'absente de là où elle est censée se trouver et où, si on la cherche, on est censé pouvoir la trouver. Et elle n'est plus là. Ouais. Et personne ne sait où elle est. Oui, il faut quand même le dire dans ce texte.
Bien sûr.
Personne.
Malgré le petit mot laissé dont elle regrettera presque par trop de politesse de l'avoir laissé, je t'embrasse. Il y a un moment donné où elle se dit peut-être que j'aurais même pas dû laisser ce mot-là et être encore plus radicale dans mon geste. On l'entendait dans l'Incipit lu par Mathilde Wagman. Donc il est beaucoup question de la colère, voire de la haine qui la berce. Donc ça aussi, c'est très fort dès les premières pages. Et en même temps, elle parle d'emblée de la volupté. Vous disiez, Eliane Leport, qu'elle mettait la question du désir, de la volupté et du corps très au centre de son texte, pas que comme un corps harassé, travaillant, ouvrier, sur lequel on va revenir, mais est-ce que vous pouvez dire quelques mots de la place qu'elle fait, Dorothée Letessier, à un corps voluptueux dans cette fugue, dans cette échappée, dans cette absence ?
Oui, enfin, c'est assez énorme en fait, parce que ça, ça c'est une dimension très importante du livre. On a l'impression d'une redécouverte de son corps en quelque sorte, qu'elle explore aussi. Et ça aussi, c'est intéressant puisque c'est le corps à l'usine, est souvent vu comme un corps, ce dont elle parle aussi, un corps contraint, un corps blessé aussi. Et donc elle
fatiguée
et elle déplace, enfin elle déplace tout ça, enfin en ajoutant justement, enfin en écrivant, enfin sur l'intime, la sexualité, les fantasmes aussi, enfin qui tiennent une place énorme.
La grande scène du bain, quand même.
Oui, bien sûr. Oui.
Quand elle arrive à Paimpol, elle prend cette chambre avec une baignoire et elle prend ce bain. Et ça, c'est quand même un moment
donc au chaud de rêvasserie. Elle pense à Marilyn. C'est une scène qui est suivie un petit peu plus tard, avant de s'endormir, d'une scène de masturbation.
Elle se caresse. Il y a cette idée aussi que dès qu'elle est dans le car, elle dit je suis assise et déjà c'est un plaisir.
Bah ouais.
C'est que le et ça commence. Moi j'ai adoré ce côté extrêmement concret, sans discours en fait.
Je ne veux plus être utile à personne. Plus personne ne lui demande quoi que ce soit.
Voilà. Elle ne tient aucun discours. Tout part vraiment de sensations extrêmement concrètes, extrêmement nettes. En ce sens-là, je trouve que c'est un très grand texte parce qu'il y a cette vérité très directe. Hein. Tout est très très direct.
On écoute la voix de Dorothée Letessier. On est un tout petit peu plus de 10 ans après l'apparition de son texte. L'émission s'appelle Le Pays d'ici et c'est diffusé sur France Culture.
C'est dérisoire et à la fois c'est énorme. C'est-à-dire que la distance ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est le fait de prendre la décision et de passer à l'acte. Alors que c'est évident que on a tous à un moment ou à un autre, ce n'est pas une question ni de classe sociale ni de sexe. Je veux dire, aussi bien un homme, aussi bien dans d'autres milieux, on pourrait penser qu'on a tous envie de décrocher à un moment. Et elle le fait. Pas moi. Je n'ai pas fait. Bon, moi, j'ai écrit, mais elle part. Et puis, la distance n'a pas d'importance. Et puis, c'est aussi une dérision par rapport quand même à sa condition sociale, qui est le fait qu'elle est ouvrière et qu'elle ne peut pas partir loin pour des raisons toutes bêtes, économiques. Elle n'est pas... c'est pas une bourgeoise. Elle ne va pas prendre 8 jours au Baléares ou je ne sais où, comme ça, chérie, j'ai du bague à l'âme.
La voix de Dorothée Letessier en 1991 dans l'émission Le Pays d'ici. Au tout début de votre préface, Maëlys de Kerangal, vous parlez de cette poche de temps qui lui permet de prendre la parole, d'entendre sa voix. Elle est tout simplement ce qui rend possible l'éclosion du roman. Il y a une mise en abîme dans ce que dit Dorothée Letessier. Elle parle de son personnage. Elle fait le voyage, Marie-Yvonne. Moi, je ne fais que l'imaginer. Et c'est aussi un texte sur qu'est-ce que c'est que d'avoir de la place pour penser, d'avoir de la place pour imaginer, d'avoir de la place pour s'entendre. Et vous décrivez presque le fait que c'est le début de l'écriture, Maëlys de Kerangal.
Ah oui, moi j'ai eu le sentiment que quand elle écrivait, en fait qu'elle écrivait finalement peut-être le récit initiatique de son accès à l'écriture. Bon, il y a cette histoire d'endophasie, hein, c'est-à-dire le fait de parler en soi, la petite voix qu'on a dans la tête. Donc elle parle, elle se parle à elle-même. Immédiatement, on a le sentiment qu'elle est est presque doublée en permanence par cette voix. Ça, c'est déjà passionnant. Et d'ailleurs, on le retrouve dans cette interview où elle dit, voilà, moi, je ne l'ai pas fait, Marie-Yvonne le fait. Mais je trouve que surtout ce que permet la solitude, et ça, c'est important, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui concerne tous les auteurs, c'est ce droit à la solitude, c'est-à-dire l'idée de que sans cette solitude, on n'a pas accès forcément à ce qui peut être nettement circonscrit. En fait, cet accès à elle-même, elle l'a parce qu'elle s'en va. Sinon, sa vie est recouverte de bruit, de relations contraintes. Et en fait, pour pouvoir rêver avec cette idée que ce qu'elle fait de la rêverie, c'est extraordinaire dans ce livre, hein, l'importance qu'elle donne à la divagation, au fait de rêver, au fait de s'imaginer une autre, toutes ces fictions de soi qui commencent à s'enchaîner. Elle est dans le transsibérien, elle est Marilyn Monroe, elle est Marie-Yvonne Kollontai et tout.
Jusqu'à
elle est
la
très,
fin.
Très drôle.
Même quand elle imagine son retour à la fin, absolument. Dont on pas du tout que ça va se passer ou pas comme ça, mais elle imagine une scène d'amour, de retrouvailles avec son mari, très belle, très sensuelle, très érotique. Bon, elle trouve autre chose, mais en tout cas, il y a quelque chose de la puissance d'imagination. Peut-être, au regard de ce qu'on décrivait tout à l'heure de l'histoire littéraire, de l'écriture ouvrière, Eliane Le Port, est-ce que c'est singulier dans le texte de Dorothée Le Tessier ?
Oui, l'imagination à ce point, c'est vraiment singulier. C'est-à-dire que tout ce qu'elle imagine, enfin ce j'allais dire débordement de pensée, c'est pas un débordement de pensée. On a l'impression d'ailleurs quand on parle de la classe ouvrière ou de l'histoire ouvrière, le mot qui vient souvent c'est l'émancipation, et c'est quand même enfin assez compliqué finalement de savoir qui s'émancipe. Mais là c'est une pensée qui s'émancipe très certainement. Enfin c'est pas une émancipation totale puisque la fin dit autre chose, et en tout cas, enfin, elle continue beaucoup à se questionner, et puis elle expose aussi ses contradictions. Mais c'est vrai que sur tout ce à quoi elle donne libre cours, c'est un texte très singulier. Ce qu'il n'est pas, en revanche, c'est le fait de sortir de l'usine. C'est-à-dire que dans les textes des ouvrières, elles articulent vraiment l'espace du travail et du hors-travail. Et c'est aussi ça qui... Alors là où Dorothée Le Tessier va beaucoup plus loin, c'est que elle parle de l'intime, elle parle du couple ouvrier, elle parle des vies privées, enfin même si c'est un texte de fiction. Et donc son texte est à part pour ça. Mais par contre, là où il rejoint ceux d'autres ouvrières, c'est le fait, pour dire qu'on est ouvrière ou pour dire qu'elle est ouvrière, elle est obligée de parler, enfin, de ce qui se passe après le travail.
Mais est-ce que quand vous dites qu'elle articule ça, Eliane Le Port, ça procède aussi de l'idée d'un continuum entre sa condition de femme et donc le travail qu'elle effectue à la maison, travail domestique, travail d'éducation des enfants, travail même du couple, parce que il y a aussi la sexualité qu'elle doit à son mari, dans lequel elle s'ennuie, et l'idée du travail ouvrier, c'est qu'il y a aussi une articulation politique à cet endroit-là, chez Le Tessier, comme ailleurs dans les textes des ouvrières que vous avez étudiés.
Oui, alors là, enfin, quand on relit Dorothée Le Tessier, je trouve que c'est un texte éminemment politique, vraiment, c'est impressionnant sur cette question-là. Le texte d'un ouvrier à la même époque, ce qu'il y a de commun avec le texte de Dorothée Le Tessier, c'est qu'il y a une obsession sur le temps et l'espace en fait dans l'usine. Mais le temps et l'espace pour une femme ouvrière, c'est pas du tout la même chose. C'est le temps que l'on passe à l'usine, c'est l'espace de son atelier, l'espace de son poste, mais c'est en fait le temps qui se prolonge. Enfin, c'est intéressant quand elle, à un moment, il y a une scène où elle imagine, c'est la fin de son voyage, elle rentre chez elle et elle imagine ses collègues qui sont au vestiaire et qui partent, pour certaines d'entre elles, celles qui sont mères et épouses, précipitamment, et il y en a une qui dit la deuxième journée commence.
Oui, mais d'ailleurs, elle écrit aussi noir sur blanc, au moins avec le travail à l'usine, on fait notre travail. Et on est quitte avec le mari et les enfants, on n'est jamais quitte.
Voilà.
Il y a vraiment quelque chose comme ça, du travail permanent et de la poursuite du travail qui ne s'arrête pas quand on rentre à la maison. On va écouter Audrey, auditrice du Book Club. Elle a lu Le Voyage à Paimpol de Dorothée Le Tessier. Elle nous en parle, elle nous parle aussi d'un film et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, j'ai lu Le Voyage à Paimpol de Dorothée Le Tessier Et ce que je trouve particulièrement émouvant, c'est qu'il n'y a pas de grand bouleversement dans les faits. C'est pas grandiloquent. C'est très simple et très juste. Mais en même temps, ce voyage porte en lui quelque chose d'énorme, comme une petite révolution intérieure, puisqu'un espace s'ouvre enfin. Et je trouve que Dorothée Le Tessier parle vraiment bien de la condition de femme, et plus particulièrement de la condition de femme ouvrière. Elle parle du rapport au travail, du rapport au corps, à l'épuisement physique et moral, mais aussi aux syndicats et aux autres femmes ouvrières. Et en lisant ce livre, moi, j'ai pas cessé de penser à une image. C'est une femme filmée en 1968, une femme de l'usine Vonder qui, après la grève, doit reprendre le travail et qui refuse d'y retourner. C'est une image hyper forte et assez révoltante. Et je me suis demandé, Maëlys de Kerangal, à qui vous aviez pensé en lisant ce livre. Merci pour votre réponse.
Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre
avec... Non, moi, je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous... Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver à l'imposer.
De toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec...
Tu disais ça il y a trois semaines et plus un jour.
C'est une étape, c'est
ben
pas...
oui.
Hein, c'est bien ce qu'il a perdu.
Un extrait du film dont nous parle notre auditrice Audrey, la reprise du travail à l'usine Vonder, filmée par Jacques Villemont le 9 juin 1968. Merci beaucoup Audrey pour ce témoignage de lecture du voyage à Paimpol. Elle vous pose cette question, Maëlys de Kerangal, à qui avez-vous pensé?
Alors, j'ai également pensé à ce documentaire, surtout à cette phrase, j'y retournerai jamais dans cette tôle. À l'époque, on avait bien retenu, moi je me souviens quand j'avais été voir ce documentaire et cette femme, cette colère, c'est à ce moment-là, c'est tourné juste devant l'usine. Et puis j'ai pensé, alors la fin du livre est un peu plus grave, j'ai trouvé, parce qu'en fait c'est un retour assez difficile quand même. Hein. D'abord, ce qui est aussi très intéressant dans le livre, c'est tout le rapport à l'argent. Hein. Donc il y a ce décompte aussi de ce qu'elle a dans son porte-monnaie, des dépenses, et ça, je trouve que c'est assez fort. Et puis elle se fait voler ce porte-monnaie, donc elle rentre, c'est difficile. Il y a une tonalité, plus grave, même si voilà, il y a aussi des souvenirs heureux et l'idée que notamment une échappée à la plage avec son Marie, etc. Mais moi, j'ai pensé aussi à un film assez grave tourné par Michel Drac ou Drache et qui s'appelle Élise ou la vraie vie. Et c'est aussi un film dont parle Rebecca Zlotowski dans son. Ouais. Et moi, j'ai pensé parce que moi, à ce livre parce que je l'ai lu, je pense à sa sortie et il était déjà et très très vite, il a été tourné. Je me souviens très bien du film avec Marie-Josée Natt. Mais c'est un film plus grave où il est beaucoup plus aussi question du racisme et il y a la guerre d'Algérie en toile de fond et j'ai le souvenir aussi d'une femme qui ne retrouve jamais cet amoureux, enfin elle a cette histoire avec cet ouvrier je crois algérien et en fait elle le perd et à la fin du film elle est seule, mais en revanche il y avait ce sentiment, cette femme là mais à part aussi dans un registre plus grave que ce qu'on a entendu et aussi que Dorothée, j'allais dire que Marie-Yvonne, parce que c'est aussi un texte d'une verve, d'un humour, elle se moque beaucoup des gens, elle a une force ironique et ça aussi c'est toute cette façon de d'être irrévérencieuse, elle veut pas être agréable, elle est tout le temps, elle est elle-même, elle a pas envie d'être aimable, elle a envie de vivre cette journée comme elle a envie de la vivre, et ça j'ai beaucoup aimé aussi cette façon dont elle ne cesse de se moquer de la bourgeoise du salon de thé. Il y a une scène dans un salon de thé qui est extraordinaire où elle se prend un énorme gâteau et on est content enfin qu'elle s'octroie un peu tous ses plaisirs. Et puis ensuite
elle se souvient aussi d'une réunion syndicale avec les patrons et elle imagine comme ça le patron a branché son oreillette sur je sais plus qui c'est, mais bref, branche son oreillette sur le patron d'encore au-dessus. Elle parle comme ça de ces hommes qui se remémorent de manière paillarde le déplacement professionnel qu'ils ont fait 3 semaines auparavant. Oui. Et elle se fout.
Elle les ridiculise. Enfin, vraiment, les ridiculise vraiment. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans ce livre. Je repense à ce partage entre l'espace et le temps. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est... d'abord, elle dédie son livre aux ouvrières de Chafoteau et Maury, de Chafoteau. C'est les moments où elles sont ensemble et les moments où elles travaillent. Et notamment tout ce qui se passe entre elles. Et dans ce voyage, ça revient, ça remonte. Il y a des accouchements, il y a une de ses collègues qui perd un enfant, tout ça...
Elle dit « je mâche sa douleur comme si c'était la mienne ». D'ailleurs, on parlait du corps pour commencer tout à l'heure et on n'a pas dit qu'il y a quasiment au début du roman un récit de son propre accouchement, ce qui est quand même à 45 ans, où elle dit « faut-il que quelque chose en moi se déchire ou se détruise pour donner naissance à ce petit ?» Enfin, il m'a semblé que...
La mort jolie, on appelle ça la mort jolie.
Il m'a semblé que c'était des lignes tout à fait rares, sinon inédites pour des textes de cette époque. Là, on entendait Maëlys de Kerangal parler de la tonalité un peu plus grave, en effet, à la fin, avec ce retour dont on ne sait pas exactement d'ailleurs à quoi il va ressembler. Et puis elle est chez la coiffeuse et donc il y a ce moment, voilà, en effet délicieux, où elle se fait faire une coiffure. Bon, et elle s'imagine lire un article où elle serait accusée d'un crime. Et c'est assez beau parce que par la fiction, par la rêvasserie, elle met aussi en scène la propre culpabilité et le caractère quasiment criminel de ce que c'est de se barrer pour quelques heures de chez soi. Quelle place elle fait, Eliane Delporte, peut-être aux pensées pas sombres et dynamiques, mais peut-être un peu plus mélancoliques dans ce texte-là.
En tout cas, enfin, c'est par rapport à ce que disait Maëlys de Kerangal à l'instant, enfin, sur ce qui concerne les ouvrières. Ce que dit Dorothée Letessier au moment où elle écrit, quand elle donne des interviews après sur l'écriture du livre, elle dit qu'elle ne cessait de penser en fait à ses copines. C'est-à-dire que c'est un livre qu'elle a écrit en pensant constamment à ses camarades d'usine, parce que c'était important pour elle, qu'elle s'y retrouve à la fois, dans les récits qu'elle livre, et aussi, dans les perceptions qu'elle donne, sur l'usine. Après, là où elle va au-delà, c'est sur le rêve, l'imagination, mais elle leur dit aussi peut-être que, après tout, elles peuvent aussi s'autoriser à rêver, je crois.
D'ailleurs, en 2011, quand elle meurt, j'avais pas prononcé la date de sa disparition à Rennes, il y a des papiers qui relatent la façon dont les ouvrières se sont reconnues dans ce texte et comment ce texte a circulé à Chafoteau et comment, même si c'est un roman et même si peut-être le but de ce texte-là n'était pas que de témoigner fidèlement de la condition ouvrière, le fait est qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui se passait. Maëlys de Kerangal.
Oui, je voulais dire, on a écouté l'extrait d'une émission et dans cette émission, Dorothée Letessier revient. Et elle retrouve deux anciennes collègues de l'usine. Et on sent effectivement qu'elle a écrit pour elle. Et tout à l'heure, vous demandiez, Marie, mais pourquoi est-ce qu'on republie ce texte ? Alors évidemment, il y a le fait que ça documente ce que c'était qu'une vie ouvrière, la vie ouvrière d'une femme dans les années 80, peut-être avant le grand backlash, Reagan, Thatcher, etc. Et on passe complètement à autre chose. Mais il y a aussi l'idée, tout simplement, de ne pas oublier ça et de porter aussi la mémoire de ces femmes. La mémoire, parce que beaucoup, justement, n'écrivent pas. Et elle est un peu leur porte-voix, quand même. Le sent. Et elle se considère comme ça. En tout cas, durant cette émission, elle dit « mais vous auriez pu faire autre chose ». Ou la journaliste demande à l'une d'entre elles « vous auriez pu faire autre chose ». Et elle répond « non, moi, je peux faire que l'usine. Mais vous auriez pu être vendeuse ?»« Non, parce que j'aime pas être aimable, etc. » Et il y a cette idée de porter leur voix. Et ça, c'est quand même un magnifique motif, porter la mémoire comme ça d'une population de ces femmes-là. C'est un magnifique motif, je trouve, pour éditer ce texte.
Y compris d'ailleurs dans le texte littéraire, puisque ce sont leurs voix aux camarades qui lui reviennent plus qu'autre chose. C'est-à-dire que dans ce moment où elle quitte, la seule chose on pourrait dire qui lui manque, c'est la camaraderie. Ce sont les dialogues entre ouvrières. On écoute un extrait de l'émission que vous évoquez, Maëlys de Kerangal, et puis un nouvel extrait du texte.
Les cadences sont dures, de plus en plus dures. Faut se lever tôt. Bah oui, je commence à 5h30 tous les matins. Ça me fait me lever à 4h30. C'est dur tous les jours et toute l'année, de se lever à 4h30 le matin.
Vous parlez avec vos collègues ou il y a beaucoup de bruit dans l'usine ?
Il y a du bruit, il y a du bruit. Et en fin de compte, ça a les avantages, les chefs, qu'il y ait du bruit, parce que comme on a du mal à s'entendre, il faut toujours se retourner ou se répéter. On en a marre, alors on arrête de parler, puis on bosse.
Hors de l'usine, dans le civil, on ne se fréquente pas beaucoup. Nous sommes chacune dans notre vie, dite de famille, et si on se voit, on ne sait plus quoi se dire. Notre amitié a besoin de l'usine. Dans les grandes déprimes, l'usine est un refuge. On fait notre boulot et on est quitte. Tandis qu'avec le mari, les gosses, on n'est jamais quitte. On cause, on se réconforte, on rit. Le chef profite de ces moments pour me dire « Alors, Marie-Vonne, vous ne viendrez pas gueuler que moi... Pardon. Vous ne viendrez pas gueuler que les cadences sont trop dures. Vous ne connaissez pas votre chance de travailler ici. Ailleurs, c'est bien pire. » Cela vient de si bas que cela me glisse entre les doigts de pied. On n'est pas au bagne tout de même. Les meilleurs moments, ce sont les pannes. Pannes de machines ou manque d'approvisionnement en matières premières. On n'a plus rien à faire. C'est une longue pause. Sérieusement, le chef nous déclare « Je sais que c'est dur pour vous d'être arrêté, mais gardez le moral tout de même. Je vous promets que vous aurez bientôt du boulot. » On se demande s'il se fout de nous ou s'il croit sincèrement ce qu'il dit. Le moral, on l'a d'autant plus qu'on ne bosse pas. C'est lui qui se fait des cheveux pour sa production, pas nous. On fait des blagues, on organise une collecte pour qu'un copain qui a les cheveux longs se paye le coiffeur et une autre pour qu'un grognon notoire s'achète un kilo de bons poils. On m'appelle. Marie-Vonne, t'es d'accord avec les numéros qu'on a marqués pour le loto ? Tu comprends, je préfère en parler au syndicat d'abord. Comme ça, si je perds, je saurai à qui m'en prendre. Je les ai laissés tomber, mes potes. Je souffre de les savoir suant sans moi, riant sans moi. Ma tête est lourde. Je frise le ridicule sous cette coiffure, dans cette ville où je ne connais personne.
On écoutait un extrait de cette émission où Dorothée Le Tessier en effet refait ce voyage, ou fait plutôt ce voyage à Paimpol et retrouve des ouvrières de Chafoteau. L'une de ces ouvrières dit « De toute façon, il y a tellement de bruit qu'on on dépense tellement d'énergie à essayer de se parler qu'on finit par se taire et par travailler. » Et on l'entend ici dans ce nouvel extrait du voyage à Paimpol, lu par Mathilde Wagman. La solidarité, c'est-à-dire que cette, la chose qui presque encore physiquement la rattache à ce qu'elle a quitté, c'est l'idée qu'on puisse suer sans elle, l'idée que les camarades, finalement, soient toujours en train de bosser quand elle part. Ce serait presque ça, la chose la plus... Tout à l'heure, on entendait Maëlys de Kerangal dire le plus scandaleux, c'est qu'elle s'absente de sa condition de mère. Et pour elle, le plus scandaleux, c'est qu'elle s'absente de l'amitié ouvrière.
Oui, et c'est vrai que dans ce passage qui vient d'être lu, on entend en fait l'importance des sociabilités, enfin ouvrières et usinières.
Jouer au loto, se cotiser pour un coiffeur.
À un moment donné, avoir une attitude complètement déchaînée parce que le travail rend presque fou. Et c'est ce qu'elle dit aussi, c'est-à-dire que ce sont des amitiés. Alors très subtil, il y a les gens autour desquels on travaille qui sont un peu des camarades d'établi ou d'atelier, et puis il y a les bonnes copines avec lesquelles on va faire la conversation chaque jour, mais pour ça, ça veut dire aller plus vite dans son travail pour essayer de récupérer un quart d'heure, 20 minutes.
Prendre de l'avance sur le rendement, voilà.
Et donc ça, alors il y a beaucoup d'échanges justement, enfin sur l'intimité avec ces copines-là. Elle parle d'une de ses amies entre guillemets d'usine, et en même temps elle dit aussi qu'elle ne la voit pas hors de l'usine ou très peu. L'amitié, dit-elle, notre amitié a besoin loin de l'usine.
Sinon, on ne sait plus quoi se dire.
Voilà. Mmh. Et je trouve que dans son livre, qui insiste beaucoup sur la contrainte, la subordination, l'aliénation, il y a aussi des passages qui sont très intéressants sur ce qui se passe entre les gens et en particulier sur ces sociabilités entre les femmes.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et c'est la dernière fois qu'on vous retrouve à cette heure-ci, Mohamed Bougarsar. Bonjour Mohamed.
Bonjour Marie.
Vous avez tenu pour nous ici la chronique lecture d'actualité. Je rappelle le principe, vous deviez chaque semaine sortir un ou plusieurs livres de votre bibliothèque en écho avec des faits d'actualité. Et cette semaine, vous nous parlez de la chronique que vous avez failli écrire et de la raison pour laquelle vous en avez écrit une autre qui est la même. Ou presque, ça vous ressemble.
Oui Marie, la vie d'un chroniqueur du Book Club est complexe et combative, mais tout cela n'est pas illogique, j'espère, vous allez voir. Le 27 mai dernier, une déclaration du chancelier allemand Friedrich Merz a retenu mon attention. L'Europe, dans un sursaut moral tardif, salutaire ou hypocrite, c'est selon, était en train de changer de ton vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et Herr Merz, après avoir rappelé que la responsabilité historique de l'Allemagne dans l'Holocauste justifiait un soutien indéfectible de l'État à Israël, il concéda que les frappes militaires menées par les Israéliens sur la bande de Gaza ne revêtaient plus aucune logique pour lui. À l'origine, je voulais consacrer mon propos à la première partie de la déclaration du chancelier, celle qui concerne la responsabilité et surtout la culpabilité. Je parle ici de la culpabilité historique et en particulier celle qui traverse et tétanise la conscience de l'Europe lorsqu'il est question d'antisémitisme. L'Europe, dont les grandes nations firent pendant longtemps et il n'y a pas si longtemps encore, le lit d'une fièvre coloniale et antisémite, les deux maladies viennent du même virus qui rendit possible un certain nombre de génocides à travers l'histoire jusqu'à la Shoah.
Et qu'est-ce que vous vouliez appeler à la rescousse dans votre bibliothèque pour vous aider à démêler cette complexe et, il faut le dire, tout à fait sensible question?
Alors, j'ai rouvert deux livres. D'abord, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Dans ce texte incandescent, polémique anticolonialiste, anticapitaliste, publié en 1950 et disponible chez Présence africaine, il dit, entre mille autres choses, qu'il y a un lien non seulement consubstantiel, mais de causalité entre le colonialisme et la Shoah. Il dit que ce que l'Europe n'a pas pardonné à Hitler, figure qu'elle a généré, c'est d'avoir infligé à des Européens des traitements qui étaient jusqu'alors réservés à des peuples supposément inférieurs, taillables, corvéables, exploitables, génocidables à volonté. Il dit que de là, du fait qu'elle ait accouché d'un bourreau antisémite qui s'est retourné contre elle, viendrait la culpabilité qui ne la quitte pas quand il est question d'antisémitisme. Car c'est son propre passé, c'est elle-même que l'Europe voit, elle ne se pardonne pas et cela l'empêche parfois d'être lucide. Je voulais croiser la verve volcanique de Césaire avec un autre livre, le livre de Hannah Arendt qui s'intitule « Les origines du totalitarisme ». L'œuvre est magistrale et dense, mais j'ai retenu l'hypothèse qu'aimait Arendt, selon laquelle l'impérialisme européen, tel qu'il s'est déployé à la fin du XIXe siècle, a non seulement détruit culture et imaginaire ailleurs, mais trahi les propres valeurs morales de l'Europe et sa propre vision de l'humanité en inventant le racisme politique. Comme si, d'une certaine manière, on n'échappait jamais vraiment au mal qu'on commettait. Conséquence de l'impérialisme européen selon Arendt, le germe des totalitarismes européens du XXe siècle que furent le nazisme et le stalinisme. Deux textes radicalement différents donc, mais proches dans certains de leurs constats sur la culpabilité qu'il faut lire et que je conseille obliquement. Cependant,
il y a la deuxième partie de ce propos que vous citiez tout à l'heure du chancelier allemand, j'imagine. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette deuxième partie, Mohamed?
Alors, c'est un petit mot, le mot de logique. Je rappelle la phrase « Les frappes militaires menées par les Israéliens sur la bande de Gaza ne revêtent plus aucune logique pour moi ». J'en ai donc déduit, en toute logique, que les dizaines de milliers de morts qui surviennent quotidiennement dans le monde entier sur fond de conflits plus ou moins médiatisés devaient avoir une logique. J'ai cherché à comprendre cette logique. J'ai quitté Césaire et Arendt pour un autre auteur qui m'est cher, Hermann Broch.
Écrivain, penseur autrichien majeur du XXe siècle, souvent comparé à Robert Musil, auteur notamment de romans monumentaux tels que La mort de Virgile ou Les somnambules.
Oui, je mentionne aussi un autre roman qui n'est pas sans rapport avec la question de la culpabilité et de la responsabilité d'ailleurs. Il n'est que de voir son titre, Les Irresponsables. Ouvrage bizarre, composé comme un recueil de nouvelles mais ayant l'unité narrative d'un roman, dans lequel Broch expose le problème moral des différentes attitudes de chacun devant le mal et les conséquences existentielles et politiques de ses choix. Qui est responsable? Broch pose la question de différentes manières et c'est merveilleux. Dans un autre de ses livres, un recueil d'essais intitulé « Ça ne s'invente pas, logique d'un monde en ruine », il s'intéresse à la dévaluation du langage par temps de crise qui précède et favorise la désintégration des valeurs politiques. La langue divine, écrit Broch, s'est désintégrée en langues ésotériques qui ne sont plus guère des langues, mais tout au plus des signaux. Correspondance d'affaires, formules mathématiques, commandements militaires, dessins industriels, données statistiques. Broch me dit donc que je ne comprends plus rien, car la langue n'a plus aucune substance ou est devenue obscure, favorisant ainsi l'incompréhension et transformant l'illogique en déraison et en logique. Pour cette raison, parce qu'il allie puissamment dans un style à la fois poétique et philosophique, pour son époque et pour la nôtre, une réflexion sur le rapport de l'individu au drame de son temps et une méditation sur la logique qui la crée, il faut lire Hermann Broch. Hasard de ma bibliothèque dérangée, à côté de Broch, il y avait le volume Monsieur Test de Paul Valéry. Je l'ouvre car c'est un texte que j'aime. Page 109, dans une section intitulée Dialogue, il y a cette phrase que j'avais soulignée il y a longtemps. Rappelez-vous tout simplement qu'entre les hommes, il n'existe que deux relations, la logique ou la guerre. Je me suis alors dit que ces mots désespérants étaient encore trop optimistes, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait plus qu'une seule relation, la guerre. Mieux ou pire, je dirais donc, la logique et la guerre. Et puisque ce sont là mes derniers mots,
pour cette chronique
et pour cette tribune, chère Marie, je voudrais simplement dire que j'ai été très heureux d'être là pendant toutes ces semaines et je voudrais formuler un espoir. J'espère que les prochains mois, les prochaines années apporteront des mots plus optimistes pour ce pays, pour ce continent, pour le monde tout entier. Et j'espère que les prochaines personnes qui se succéderont ici, qui viendront, auront des choses plus gaies, plus joyeuses, plus pacifiques. À dire. Je vous remercie, vous Marie. Je remercie toute l'équipe du Book Club, Marianne Chassoir en particulier, puisqu'elle a toujours imprimé mes chroniques au dernier moment que j'oubliais de faire chez moi en arrivant. Merci à toutes et à tous.
C'est nous qui vous remercions, Mohamed Bougarsar, pour cette chronique précieuse. On peut vous réécouter désormais, c'est dans les archives, lecture d'actualité. Et le Book Club se termine toujours de la même façon, on cherche de la musique, parce qu'on est des fervents optimistes dans les textes, et on en trouve grâce à nos auditeurs et auditrices. C'est Anne-Marie qui joue avec nous aujourd'hui, et elle nous a confié un extrait de « Deux lames » de François Cheng. Je lis un beau livre de Christiane Rancé, qui vient tout juste de paraître, « En pleine lumière », et je tombe sur ce passage. « Comment mon âme quittera-t-elle mon corps ?» et ce qui pourrait faire qu'elle y consente sans trop regimber. La question m'a préoccupée longtemps jusqu'au jour où j'ai écouté la mélodie hongroise en si mineur de Franz Schubert, mon compositeur préféré avec tous les autres, interprété par David Frey. J'avais enfin trouvé mon viatique, le rythme du décollement de l'âme et du corps. Quelques 3 minutes de piano qui gonflent l'âme comme un aérostat, sans pathos, sans grandes eaux ni grandes pompes. C'est bien cette mélodie que je demande que les anges musiciens jouent pour m'accompagner dans mon ultime silence. Eliane Oport d'avoir été avec nous pour évoquer Merci. Le voyage à Paimpol de Dorothée Le Tessier paru à l'imaginaire chez Gallimard. Merci infiniment Maïlys de Kerangal d'avoir Merci été avec nous pour parler de ce texte. On peut lire votre très belle préface et celle de Rebecca Zlotowski. Et pour le générique fin, je laisse la place.
À la prise de son aujourd'hui, Valentin Bombinet.
À la réalisation, Vivien Demeyer.
Merci à toute l'équipe du Book Club.
Vous pouvez réécouter l'émission via l'application Radio France.
Moi, je m'appelle Knowledge.
Moi, c'est Louison.
Et moi, c'est Jules.
Nous sommes en stage cette semaine à Radio France pour découvrir comment se fabriquent les émissions.
Bon après-midi sur le
France Culture.
Vous
vous êtes bien sur France Culture.
Demain, les matins seront ouverts dès 6h30 comme tous les jours de la semaine.
Guillaume Erner.
La philosophie pense l'actualité de la guerre, c'est demain dans les matins.
Les matins de France Culture, demain à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Sur France Culture, on frissonne sous le ciel du polar et du thriller. Abonnez-vous à notre nouvelle collection d'histoires qui font peur. Retrouvez le Dahlia Noir, Millennium, des nouvelles du crime, des polars des meilleurs auteurs et autrices françaises. Pluie glaciale, sueur froide et mare de sang. Collection Polar Thriller et autres frissons. À découvrir sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture, tout de suite, LSD, la série documentaire. Cette semaine, Fanfare, une histoire en marche. Une série documentaire de Jérôme Sandlars, réalisation Benjamin Hu.
Fanfare, une histoire en marche.